cinéma.
Ciné Club Actu.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Po et vous écoutez Ciné Club Actu.
Nous sommes Carla,
Camille
et Maxime.
Et nous allons vous présenter une nouvelle émission sur le cinéma qui va vous présenter chaque mois les 5 sorties ciné et séries les plus attendues du mois. Et nous allons ensuite évoquer les actus autour des projets les plus attendus. Mais avant tout ça, nous commencerons à chaque fois l'émission par la réception d'un invité. Il nous présentera son rapport au cinéma et l'un de ses films favoris.
L'émission est conçue pour tous les types de publics, donc si vous ne vous connaissez pas trop, c'est pas grave, l'idée c'est de vous donner l'envie d'aller au cinéma ou de regarder une série. Et si vous êtes un féru de cinéma, alors vous aurez les dernières mises à jour sur vos projets les plus attendus.
Pour cette première émission, nous recevons Lucas, un des animateurs de l'émission Radar, un podcast qui est disponible sur Radio Campus Po aussi. Lucas, parle-nous un petit peu de ton rapport au cinéma.
Bon, salut à tous. Donc, en effet, je fais partie de l'émission Radar, donc avec l'autre Lucas. Donc, moi, c'est Lucas Mazzolo. L'autre Lucas, c'est Lucas Sayous. Donc, nous présentons une émission sur l'actu en général et plutôt artistique. Donc, lui, il est plus littéraire. Moi, je suis plutôt cinéma en général. On a quelques projets. On va sûrement commencer à étudier notamment des événements sur le campus, si ça vous intéresse, bien évidemment. On aura la réception notamment de quelques interviews, par exemple de musiciens qui passent régulièrement à Pau sur le campus et qui font certains concerts ou bien des événements comme des spectacles. Donc voilà, c'est un petit peu Radar. Donc on était déjà présent la saison dernière. Et donc, merci à vous de me recevoir, du coup, pour l'émission. Donc, moi, mon rapport au cinéma, donc, il est pas très, très original. On va dire que c'est assez héréditaire dans ma famille, puisque mon père est un féru de cinéma. Et depuis que je suis tout petit, on a toujours eu l'habitude de s'intéresser au cinéma, de regarder énormément de films. Donc, voilà, j'ai grandi avec le cinéma, j'ai envie de dire, et voilà, c'est pour ça que je parle de côté héréditaire. Ma sœur aussi est fan de cinéma, justement. Et donc moi, on va dire que j'ai grandi quand même avec les films en particulier de Arnold Schwarzenegger. Donc des films comme True Lies, À l'aube du sixième jour, Predator, Terminator, Les Jumeaux. Donc toutes sortes de films. Moi, j'étais plus Team Schwarzenegger que Team Stallone, pour le coup. Je sais pas exactement quel film en particulier j'ai pu voir pour te dire en premier, parce que j'en ai vu tellement, je sais pas du tout, mais voilà, il y a ces films, c'est les films de mon enfance en quelque sorte, et particulièrement Arnold Schwarzenegger ou bien Mel Gibson avec Danny Glover dans L'Arme Fatale, ou bien même des films d'animation en général, hein, bien évidemment, comme tout le monde, Toy Story, Shrek, Les Indestructibles, Ratatouille, etc. Donc voilà, ça serait plutôt ce genre de film de mon enfance, pour te dire, Camille.
D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton film préféré ?
Alors, mon film préféré, bon, c'est toujours compliqué pour moi de donner un film préféré, parce qu'on va dire que bon, quand on aime le cinéma, il y en a tellement qui arrivent à nous convaincre que on va dire que bon, si je devais vraiment donner un film qui m'a marqué, je dirais Seven de David Fincher. Donc bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un psychopathe, un tueur en série qui tue selon les 7 péchés capitaux. Et donc c'est une enquête donc avec Morgan Freeman et Brad Pitt. Donc bien évidemment le tueur en série qui est joué par Kevin Spacey. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est un film qui est assez choquant, il est assez marquant quand on le voit parce que il est particulièrement violent. Donc bon, en général c'est pas le genre de film qu'on voit dans son enfance. J'ai pris je pense que je devais avoir quoi 15 ans quand je l'ai regardé la première fois, parce que bon, mon père m'avait dit on va quand même attendre pour te le montrer. On va éviter, hein. J'ai pas envie de passer pour un père indigne. Bon, voilà. Et donc, Seven, qui est vraiment bien. Donc, pour ceux qui le connaissent pas, moi, David Fincher, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est mon réalisateur préféré. Et Seven, donc, mon film préféré. Donc, si vous le connaissez pas ou quoi, franchement, je vous conseille de le voir. Donc, ouais. Ensuite, bon, il y a plein de films. Hein. Les films de Quentin Tarantino aussi, que j'adore. Les 8 salopards en particulier. Pourtant, bon, en général, il a eu une mauvaise... Enfin, pas une mauvaise réception, mais la plupart des gens ils l'ont mal reçu dans le sens où on a tendance à dire que ça parle trop, il y a trop de dialogue et pas assez d'action, mais justement c'est là moi qu'il a réussi à me convaincre, Tarantino, c'est que les dialogues sont exceptionnels et il arrive à nous tenir pendant quasiment 3 heures juste avec des dialogues, et ça je trouve ça vraiment incroyable. Et bien évidemment la signature de Quentin Tarantino avec énormément l'épisode sanglant à chaque fois à la fin du film. Donc comme dans les autres, même dans Pulp Fiction aussi, il y a toujours un épisode, un événement marquant dans le film. Donc voilà, Quentin Tarantino aussi j'adore, mais voilà, Seven, mon film préféré je dirais, voilà.
C'est vrai qu'on enjoint tous nos auditeurs à aller voir les films de Fincher et de Tarantino, parce que c'est vraiment les plus grands réalisateurs de ces 30 dernières années. Même si je suis un peu moins dithyrambique sur Seven que toi, c'est-à-dire okay. Je trouve que c'est un très bon thriller psychologique, mais pour moi c'est pas le meilleur film de Fincher.
Ok.
Et t'aimes... plutôt Gone Girl.
Gone Girl, t'aimes bien Gone Girl ?
Avec Ben Affleck.
Ouais.
Qui est vraiment fantastique, je trouve. Il a une sacrée ambiance qui met vraiment pas bien.
Ouais, ouais. Et puis il est assez choquant aussi, quoi, pour le coup.
C'est vrai,
ouais.
Fincher est très fort à faire une ambiance vraiment qui va vous choquer. Sur Netflix aussi, il a supervisé la série Mindhunter,
ouais, excellent,
qui est tout simplement une étude des comportements des tueurs en série.
Ouais.
Donc ça c'est déstabilisant, vous voyez pourquoi.
Hein. Ouais, il a vraiment un problème avec les tueurs en série, hein, entre Zodiac,
oui.
Seven...
Mais il a l'air Mindhunter. Vraiment passionné par ça.
Ouais, c'est clair, ça c'est glauque, mais... Franchement, c'est cool.
Il y a un gros problème, les tueurs en série en général. Il y a beaucoup de films là-dessus.
Ouais, au moins un réalisateur qui en parle, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais clairement.
Et Tarantino, moi, mon film préféré de lui, c'est Kill Bill Volume 1.
Ok.
Que je trouve vraiment exceptionnel. Et tu vois, Les 8 salopards, j'aime un peu moins dans sa filmographie. C'est-à-dire, je lui reproche pas de parler trop. Ça, je pense que c'est un faux reproche. C'est juste, je sais pas, le film m'a beaucoup moins accroché que les autres. Par exemple, Once Upon a Time in Hollywood, par exemple, son dernier film à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça beaucoup mieux.
Mais okay.
Pour moi, Kill Bill, c'est son chef-d'œuvre.
Ah ouais, tu vois, Kill Bill, c'est le film que je déteste le plus de Quentin Tarantino. Donc bon, au final,
pour ça qu'on vous enjoint à le regarder pour faire votre propre avis.
C'est ça, exactement. Ouais, ok. Bah c'est cool. Hein. Il y a des avis divergents, ça. C'est plus cool. Ok.
Donc alors Seven, c'est un film, un thriller psychologique, pardon. C'est-à-dire que c'est un film qui utilise la psychologie pour créer une excitation, une appréhension chez le spectateur ou le lecteur, si c'est un livre.
Pour le coup.
Et est-ce que c'est un genre que tu apprécies ?
Oui, je suis plutôt glauque dans mes choix cinématographiques. C'est vrai que c'est vraiment le genre de film que j'apprécie. En fait, j'ai tendance à adorer les films où... À la fin du film, je suis en mode, ok, je suis ça me fout des frissons parce que je suis choqué en général, et c'est vraiment le genre de sentiment que j'adore avoir. Par exemple, je sais pas si vous connaissez American History X de Tony Scott.
Avec Edward Norton.
Avec Edward Norton.
Je l'ai pas vu.
Non, tu l'as pas vu.
Paraît, c'est un super film.
Mais c'est un excellent film aussi, et il est extrêmement marquant. Donc je vous dis pas, je vous en parle pas, je ne vous aime même pas le synopsis, parce que franchement, faut juste le voir au début sans même lire quoi que ce soit dessus, parce que c'est un film qui prend en trip, et du début à la fin, ça nous coupe le souffle. En tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué. Donc American History X aussi, c'est pas mal dans le genre choquant. Ouais.
Et donc du coup, une dernière petite question. Donc le casting de Seven, il a beaucoup de grands acteurs. Donc, par exemple, Brad Pitt. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur film que Brad Pitt dans lequel il joue ?
Bah alors Brad Pitt, en fait, c'est compliqué parce que pour moi, Brad Pitt a toujours été excellent dans tous ses films. Il est monstrueux. À la rigueur, Kogan, c'était le film que j'avais le moins apprécié. Mais même le dernier qu'il a fait, enfin l'un des derniers qu'il a fait, c'est Bullet Train. Et qui était pour moi exceptionnel aussi, en tout cas dans le jeu d'acteur de Brad Pitt. Donc il est vraiment bon, il fait de la comédie, il fait du suspense, il fait du thriller, il fait un peu de tout. Je ne l'ai jamais vu trop dans de l'horreur, mais franchement il est bon. Je pense que c'est pour moi son plus grand film, même s'il y a d'excellents films aussi, Once Upon a Time in Hollywood aussi, hein. Pour moi il a été très bon. Mais en tant qu'acteur principal, pour moi c'est Seven. Bon, bien évidemment je ne vais pas dire le contraire, c'est mon film préféré, donc... forcément. Mais ouais, je dirais quoi.
D'accord, merci beaucoup Lucas pour ta participation, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous.
Ben, avec un plaisir pour moi aussi.
On va te retenir un petit peu du coup.
Ouais, parce que ben avec plaisir, cinéma, mais clairement. Voilà. Ouais, ouais.
Donc passons maintenant à notre seconde rubrique où on va vous présenter les 5 sorties cinéma les plus attendues du mois de décembre. Alors dans les futurs épisodes, on vous présentera aussi les principales sorties séries. Le problème c'est qu'en décembre, il n'y a pas beaucoup de séries qui sortent, en dehors d'une que Camille évoquera plus tard. Du coup, on a choisi de se concentrer sur les sorties cinéma pour la première partie du podcast.
Ok.
Pour cette partie du podcast. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de la sortie de ce mois-ci, Avatar, la voie de l'eau. Donc, la suite de Avatar, sortie en 2009, il y a 13 ans, et qui détient toujours le record du plus gros box-office et qui avait introduit la 3D dans toutes les salles de cinéma. Et c'est aussi le retour de James Cameron. On évoquait Tarantino, Fincher, James Cameron, c'est un des plus grands réalisateurs actuels. Et ça fait plus de 15 ans qu'il prépare sa grande saga de 5 films Avatar. Et depuis 2017, il tourne Avatar 2, 3, 4 et 5, qui sortiront tous les 2 ans, à partir de ce mois-ci. Donc voici le synopsis du film. Se déroulant plus d'une décennie après les événements relatés dans le premier film, Avatar, la voie de l'eau raconte l'histoire des membres de la famille Sully, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. J'ajoute aussi que le film se déroulera majoritairement autour et dans les océans et que tout a été tourné sous l'eau pour ce film, rien n'est sous fond vert. Et personnellement, je vous invite surtout à aller voir les bandes annonces du film sur internet que je trouve vraiment somptueuses. Bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder le premier film qui est vraiment un classique du cinéma. Et qui a vraiment pas mal vieilli. Hein. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vous l'avez vu, vous aimez bien, vous en pensez quoi ?
Moi, perso, je l'ai vu et je m'en souviens que j'avais beaucoup aimé. Avec ma sœur, parfois, on le regarde encore. Et franchement, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Ouais. Je crois que ça doit être l'un des premiers films que je suis allée voir au cinéma.
Tu l'as vu au cinéma ?
Je crois.
Ah ouais, ça devait être bien. Et vous, Lucas et Camille, vous l'avez vu ou...
Alors moi, c'est un peu la honte, mais je ne l'ai jamais vu.
C'est
désolée.
Pas grave, c'est pas grave.
Il faut que je le regarde.
T'as le temps de te rattraper, t'inquiète.
Ben moi, en fait, de base, je vais aller le voir au cinéma. Le problème, c'est que, petite anecdote, en fait, mon père, il était partant, tout ça. Il voulait aller le voir aussi. Et puis, finalement, il n'est pas venu et je devais aller le voir avec ma sœur. Et le problème, c'est que y a un voisin à nous qui est venu voir mon père et qui leur a dit « Mais ils peuvent pas voir ça, c'est hyper violent et tout ça. » Et alors, bah, pour le coup, moi j'étais un peu déçu parce que mon père l'a vraiment cru, pour le coup. Et donc, comme il ne l'avait pas vu, il s'est dit « Bon, ok, je vais les retenir. » Donc, je ne suis pas allé le voir au cinéma, mais je l'ai vu après ça, après coup. Et effectivement, c'est un film qui est correct, c'est bien, bon, ça en met plein la vue, hein. C'est surtout ça, c'est hyper futuriste, ouais. Et puis pour l'époque, c'était vraiment original, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Après, moi, je mettrais quand même un bémol sur les dialogues qui sont parfois un peu craignos quand même, je trouve.
Oui, bon, ça...
Voilà, ouais. On est d'accord.
Oui,
hein.
Oui.
Et, mais sinon, je trouve que, bon, niveau graphisme et tout, c'est quand même assez incroyable. Même. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'étais absolument fan des gros robots là dans lesquels les humains ils montent, j'adorais, j'avais envie d'en utiliser un, quoi.
Bah pour un film de 2009, franchement,
mais ouais,
c'était
c'est
bien.
Ça.
Ouais,
c'est ça, il a pas vieilli.
Ça a l'air toujours moderne.
C'est
oui,
ça, c'est clair.
Bon, encore après, plus maintenant.
Il a pris son temps, hein, là, oui. pour le 2, là, il a oui. quand même vachement pris son temps. Mais j'ai quand même aimé, je l'ai revu il y a pas longtemps, là, parce que ma mère, elle voulait le voir, parce qu'on a projet d'aller le voir, le 2 au cinéma, cette fois-ci.
Attention. Aux auditeurs, ça dure plus de 3h10, mais vous découragez pas.
Ok, découragez non, ça ne décourage pas moi non plus.
Ça vaut l'occasion, ça fait 13 ans que les fans attendent, vous verrez.
C'est ça,
oui, franchement.
Je pense que.
Ben... C'est pour ça que ça a mis aussi longtemps, peut-être aussi.
D'accord, et puis ouais, il a tourné 4 suites à la fois aussi.
Ouais, ouais. Mais après, je sais pas s'il y a eu des. Bon, après, en plus, avec le Covid et tout, ça a été encore retardé, mais c'est vrai que pour en revenir au box-office, Cameron, il s'est un petit peu avancé. Il a dit qu'il voulait que ça soit, en gros, le film qui dépasse même le Avatar 1 au niveau de, des bénéfices. Ça va être compliqué.
Ça va être très compliqué.
Ouais. Ça va être compliqué. C'était le premier pendant super longtemps. Je crois que ça a été dépassé par Avengers. C'est
tout. Oui, mais Avatar est repassé devant à cause des ressorties. Donc imaginez-vous si avant le Covid, Avengers Endgame n'est pas arrivé à battre Avatar. Ça va être très compliqué pour la suite.
No Way Home, No Way Home qui a fait énormément.
Tout à fait.
Mais Avatar, il est repassé devant, je crois, parce qu'il est sorti en Chine.
No Way Home, ça fait quand même 1 milliard de moins que Avatar 2.
Ah oui, d'accord. Ouais, autant pour moi.
Alors que pourtant, No Way Home...
Ouais, mais c'est vrai que... Ouais. Mais écoute, je pense que Cameron, il est un petit peu... Je pense qu'il s'avance un peu trop parce que ça va être compliqué, même avec après le Covid et tout. Et les gens n'ont pas le même rapport au cinéma maintenant, surtout avec Netflix, Prime Video et tous les autres.
D'ailleurs, il a prévenu que.
Je suis pas sûr.
Moi, j'ai un doute.
Il a prévenu que si le deuxième ferait pas d'argent, il allait annuler le 4 et le 5.
Ouais.
Donc au moins, vous êtes prévenus.
Bon, après, je me dis, sachant que Avatar, les Chinois, ils adorent ça, je me dis.
C'est vrai, ça
doit sortir en Chine. Là, ça peut faire énormément d'argent. Maintenant, faut voir, hein, mais pourquoi pas.
Alors... Même Netflix est très gardé parce que c'est tout ça, mais quand même, un gros film comme ça au cinéma, ça va quand même faire du monde.
Maintenant, on va passer à une autre énorme sortie du cinéma et c'est Carla qui va nous en parler.
Oui, donc Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, qui sort en salle le 7 décembre. Donc c'est la suite, 11 ans après, du Chapeauté, le fameux petit chat qui accompagne Shrek. Donc le synopsis précise que dans ce nouvel opus, le Chapeauté découvre que ses frasques lui coûtent cher, il a presque épuisé ses 9 vies. En fait, il ne sait même plus s'il lui en reste. C'est l'heure de retomber sur ses pattes, notre héros se lance à la recherche de la mythique étoile de l'ultime souhait, un objet magique qui va lui rendre ses vies perdues. Donc, film réalisé par Joel Crawford, qui a aussi réalisé la suite des Croods il y a 2 ans. On retrouve donc comme voix Antonio Banderas dans les voix, dans les voix originales. Donc, Antonio Banderas, Salma Hayek et Florence Pugh, qui, elle, prête sa voix pour la première fois. Le Chapeauté revient donc, et c'est pour le plaisir des petits et des grands. Moi, perso, je sais déjà que j'irai le voir. Ayant des cousins assez petits. Puis même il y a 11 ans, j'avais 8 ans, donc j'ai aussi grandi avec.
Est-ce qu'il faut vraiment une excuse d'avoir des petits cousins pour aller voir Le Chapeauté? Moi, je pense que
franchement,
tous les adultes
c'est
doivent
mon
aller
excuse.
Voir Le Chapeauté.
Je
tous
dis les ça, adultes mais je sais très bien que j'irai le voir.
Alors, on va pas enclencher un débat parce que le temps est réduit, malheureusement. Mais il faut que vous alliez voir Le Chapeauté aussi. Il faut que j'aille voir Le Chapeauté.
Moi, j'ai pas vu le 1. Mais j'irai pas voir le 2 non plus.
Quel dommage.
Ah ouais?
Le 2 a un parti pris d'animation, vous verrez dans les bandes-annonces et au film, qui a l'air vraiment intéressant pour le coup.
Okay.
Ça pourrait peut-être déboucher sur quelque chose.
Et vous avez vu Le Chapeauté 1, du coup, je suppose
tous. Oui, mais il y a longtemps.
Il y a longtemps aussi.
Okay. Moi, je l'ai vu 2 fois, une fois quand j'étais tout petit, une fois il y a quelques mois.
Mais en vrai, en plus, j'ai découvert Le Chapeauté dans Shrek. On est d'accord, c'est lié. Hein.
Oui.
Lié. Ouais. Moi, je l'avais bien aimé dans Shrek. Du coup, c'était Shrek 2, c'est ça?
Exactement.
J'avais bien aimé, mais ça m'a pas poussé à aller voir le 1 pour le coup. Je sais pas. Ok, cool.
Camille va nous parler de notre film.
Alors, un film japonais cette fois, c'est qui s'appelle Les Bonnes Étoiles, qui sort en salle le 7 décembre. Et donc, c'est le nouveau film de Hirokazu Koreeda. Excusez-moi si je le dis mal. Hein. C'est tout simplement le plus grand réalisateur japonais actuel. Et donc, le résumé qu'on peut trouver sur Allociné, pour citer les sources, c'est par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par 2 hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d'un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. Le film a été primé 2 fois au Festival de Cannes. Donc le premier, c'est celui d'interprétation masculine pour l'acteur sud-coréen Song Kang-ho, l'acteur principal de Parasite. Et il avait déjà reçu une Palme d'Or en 2018. Et alors le film, il a reçu un deuxième prix. C'est le prix du jury œcuménique. Alors je sais pas trop ce que c'est.
Œcuménique.
Je ne suis pas sûre comment on dit.
Ouais, exactement, je ne connais pas la définition exacte. Pour le coup.
Alors, en gros, c'est un jury qui est... c'est un autre comité de jury et il juge les films qui ont été nominés. D'accord. Et ils en nomment un autre.
D'accord, ok.
Et ça descend d'une association du cinéma catholique, si j'ai bien compris.
D'accord.
Et alors, dans le cast, on peut aussi noter la présence de Doona, une actrice coréenne qui apparaît dans le film Cloud Atlas, ou bien encore dans la série The Silent Sea.
Si vous voulez voir autre chose que du cinéma américain, cinéma japonais, c'est un très grand réalisateur, Koreeda. Il a eu la Palme d'Or une fois déjà, en 2018. Ouais. Il fait des super films familiaux, là ça a l'air d'être dans la même veine, alors... Je vous incite à aller le voir, là je peux rien dire de plus.
Okay.
Par contre, je peux aussi vous inciter à allumer Netflix le 23 décembre pour la sortie de Glass Onion, une histoire à couteau tiré. C'est la suite du film policier à la Agatha Christie, mais version moderne à couteau tiré, sorti en 2019. C'est toujours écrit et réalisé par Rian Johnson, qui avait aussi réalisé l'épisode 8 de Star Wars, Les Derniers Jedi. Daniel Craig, donc l'ancien James Bond, incarne Benoît Blanc, le détective, qui enquête sur le meurtre d'un milliardaire extravagant, décrit comme très influent dans la recherche scientifique et l'innovation spatiale, incarné par Edward Norton. On va pas le cacher, c'est une parodie d'Elon Musk. Hein. Et donc tout ça s'est déroulé dans sa maison de luxe, où étaient réunies des personnes liées au vrai faux Elon Musk, donc. Et ces personnages sont incarnés par Dave Bautista, Catherine Hahn, vu chez Marvel, Jessica Henwick, vu chez Matrix, et plein d'autres acteurs que vous découvrirez dans le film. Et moi, comme j'avais complètement adoré le premier film, c'est un de mes films préférés de la décennie 2010, j'attends énormément la suite, et j'adore Rian Johnson aussi, le réalisateur. Ben, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vraiment, il faut regarder à couteau tiré, il faut regarder sa suite le 23 décembre. Je suis persuadé que ça va être un bon film. Je vous invite à le regarder.
Ok. Voilà. Bah, en vrai, ça me... Mais du coup, ça m'attire parce que j'avais pas trop entendu parler de la suite. Donc tu m'éclaires un peu sur la chose. Mais c'est vrai que le 1 était vraiment bien. Et puis en plus, ils invitent, il y a un cast incroyable. Oui. Ah, pour le coup,
il y avait Ana de Armas dans le premier film.
Ouais, il y avait Ana de Armas, ouais, en principal. C'est vrai qu'elle est excellente, mais c'est surtout...
Christopher Plummer
Le détective.
Chris Evans et Daniel Craig.
Daniel Craig que j'ai adoré, qui est vraiment excellent, je trouve.
Oui, c'est un acteur excellent, de toute façon, il est incroyable.
Ouais, il est incroyable, ouais.
Carla va nous parler.
Ensuite, les Banshees d'Inisherin, qui sort en salle le 28 décembre, et le nouveau film du dramaturge anglais Martin McDonagh, qui s'est mis à l'écriture qui s'est mis à écrire des films en 2006. C'est seulement son cinquième film, et les quatre premiers ont été acclamés par la critique, tout comme Banshees d'Inisherin, déjà sorti aux États-Unis depuis octobre. Donc, un homme nommé Padraic vit sur une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande. Sa relation avec son ami de longue date, Colm Doherty, va se compliquer. Cette rupture de leur lien profond va avoir un effet sur toute la communauté et va déclencher une série d'événements qui changeront le cours de la vie des deux hommes. Donc, on retrouve au casting Brendan Gleeson, notamment connu pour son rôle dans la saga Harry Potter en tant que professeur Maugrey, mais aussi Colin Farrell et Barry Keoghan, dont vous avez peut-être entendu parler en mars dernier, car il faisait partie du casting de The Batman. Bref, dans les prochains jours, si vous cherchez un excellent film, vous pourrez voir Les Banshees d'Inisherin. Et donc, sur ce point, nous finissons les sorties de décembre.
Et on passe à notre troisième partie, où on va vous parler des actualités qui sont tombées dans les derniers jours. Là, et on commence par Camille.
Alors, il y a de grandes sorties cinéma, mais il y a aussi une série que, personnellement, moi, j'attends avec impatience. C'est la troisième saison de À la croisée des mondes, Is Dark Material, en version originale. Elle sort le 4 décembre sur OCS. Et c'est la dernière saison, puisque c'est l'adaptation du dernier livre de la trilogie du même nom. Et alors, ça raconte l'histoire en général, la série, de Lyra Belacqua. C'est une jeune orpheline qui vit dans une université de Oxford, Jordan College. Et elle est élevée par les érudits, mais il y a quelque chose de spécial, c'est que c'est un monde parallèle dans lequel les humains, ils sont liés, la moitié de la conscience humaine est liée à un esprit animal qui s'appelle un démon. Et alors le sien, il s'appelle Pantalémon. Et c'est Kit Connor qui joue dans Heartstopper, qui fait la voix depuis le début. Et voilà, il y a ce... Et alors elle et son démon se retrouvent embarqués dans une folle aventure à travers le Nord. Et c'est la suite.
D'accord.
Okay. Je connais pas du tout.
Moi, j'ai entendu parler, je sais qu'il y a James McAvoy qui joue dedans.
Ah ouais.
Ah ouais.
Mais
ouais.
J'ai toujours eu la flemme de regarder, en fait, comme beaucoup de séries. Donc, ouais. Je vous invite à la regarder, mais je sais pas. Camille vous en dit du bien, alors je suis persuadé que c'est bien.
Hein. Après, il y avait eu aussi un film qui est sorti, alors si je me trompe pas, c'est en 2007, mais c'est à vérifier. Mais ils n'avaient pas fait la suite, parce que visiblement, ça n'avait pas trop bien marché. Mm-hmm. Comme beaucoup de films, de livres qui sont ensuite adaptés en série. Bon, par exemple, Percy Jackson, The Mortal Instrument.
Ouais, ok. Ouais. Moi, je suis pas trop. Bon, après, voilà, chacun ses goûts, mais je suis pas trop fantasy comme ça. C'est vrai, je me rends compte, je suis pas du tout drôle. Je dois être totalement. je dois être toujours terre à terre, c'est vraiment mon problème. Oui, peut-être, je sais pas. Mais bon, après, j'aime bien la comédie aussi quand même. Je le cache pas, mais ok. J'ai vu quelques photos là, mais ça me fait penser à Narnia, je sais pas pourquoi.
Oui, avec l'ours.
Ouais, avec l'ours. Ouais.
Ça fait oui, bah, c'est un petit peu l'image mythique, c'est le moment ouais. où.
Vous aviez aimé, vous, Narnia ?
Ben, on en reparlera dans quelques instants.
Ah, oui. Ah,
il y a eu des actualités.
Ah, la coïncidence. Wow.
Juste avant, moi, je vais vous parler d'une série Indiana Jones qui serait en préparation pour le Disney+.
Ouais.
Elle se concentrerait sur Abner Ravenwood, le mentor de Indiana, donc évoqué à plusieurs reprises pendant les 4 films de la saga. La série serait donc un préquel au premier film. En revanche, il n'y a pas de casting ni de date de tournage pour le moment. Mais surtout, concernant la même franchise, on a eu les premières images d'Indiana Jones 5, donc le dernier Indiana Jones qui sortira en salle le 28 juin 2023. Le personnage voyagera dans le New York de 1969, à l'époque de l'apogée de la course à l'espace entre États-Unis et Union soviétique. Le méchant, nommé Voleur, sera un ancien nazi voulant corriger les erreurs qu'il a commises dans son passé, incarné par Mads Mikkelsen. On y retrouvera aussi Phoebe Waller-Bridge, qui a écrit la très bonne série sur Prime Video, Fleabag, et donc on a eu plein d'images comme ça, et bien évidemment on retrouvera Harrison Ford en Indiana Jones, 80 ans, il court toujours, il fait toujours ses scènes d'action, voilà, il est pas, voilà. Ben, je vous invite à regarder la saga et à aller voir tout.
T'es emballé par le film, toi ?
Indiana Jones 5 ?
Ouais.
Mais il n'y a pas Steven Spielberg, alors j'ai du mal. C'est James Mangold, réalisateur de Logan, qui réalise, et malheureusement il prend la suite de 4 films réalisés par Steven Spielberg.
Je sais pas.
Ça va être dur de prendre.
Je pense que ça va être compliqué. Bon, heureusement, ils ont encore Harrison Ford, même si bon, là, ça va être compliqué.
Moi, j'aime beaucoup Phoebe Waller-Bridge. Et généralement, elle choisit les projets. Comment dire, elle les choisit bien, quoi. Donc, j'ai confiance, mais j'ai peur. J'ai peur quand même. Voilà.
Ouais, moi aussi, j'ai peur un petit peu. Surtout le fait que Harrison Ford, bon, il a vieilli, quoi. Déjà dans Blade Runner, là, qui est sorti c'était quoi,
2017.
Ouais, 2017. Déjà, il paraissait très vieux dans le film. Alors là, je le sens pas. Hein. Franchement. Enfin, je veux dire, Indiana Jones, quand même, il doit bouger, quoi. C'est pas comme Clint Eastwood. Bon, Clint Eastwood, maintenant, bon, il est encore plus...
Ouais, puis il fait des films calmes aussi.
Il fait des films calmes, quoi. Mais bon, il faut voir ce que ça donne. Je pense que je le verrai par curiosité, mais ouais, ça peut être cool, je pense, quand même.
Okay. Donc, Quentin Tarantino aussi serait en train de préparer sa première série, qui sera composée de 8 épisodes. Il a déjà travaillé pour le petit écran lors d'épisodes dans les séries Urgence en 1995 et Les Experts en 2005. En revanche, par rapport à sa série, on ne sait encore rien du synopsis ni des acteurs. Seulement, on sait que le tournage aura lieu en 2023.
D'accord. Okay.
Alors, j'ajoute juste que Tarantino savait qu'il préparait la série télé qu'on avait aperçue dans Once Upon a Time in Hollywood avec DiCaprio, qui s'appelait Chasseur de primes en VF, Bounty Law en VO. Qui est tout simplement un chasseur de primes dans le western, tourné en noir et blanc, à l'ancienne, comme Tarantino aime bien, quoi. On ne sait pas si ce sera cette série ou un autre projet. Enfin, avec Tarantino, on ne sait jamais, de toute façon.
Oui, franchement.
Voilà.
Je pense que ça sera... Ça peut être drôle parce que, bon, je pense que ça va être loufoque. Hein. Si jamais ça devait être Chasseur de Primes, bah, ça
moi,
va être...
J'ai très très hâte si c'est ça parce que les extraits qu'on a vus dans le film étaient vraiment...
Ça sera
très,
comédie,
très bon.
Je pense.
Bon, ouais. Déjà, c'est un Tarantino, donc ça
et
promet.
Et puis, déjà, ouais, DiCaprio aussi. Donc,
ouais, oui, DiCaprio, voilà. on veut le voir à chaque fois. Hein.
Bah, c'est chouette.
Mais il est dans un Scorsese l'année prochaine, d'ailleurs.
Ah oui
ouais.
Attends, c'est lequel?
Avec De Niro, Killers of the Flower Moon.
Ok.
Mais nous, nous...
J'ai
voilà.
pas... Ok, ouais, j'en ai pas entendu parler. Mais je vais m'y intéresser, là, maintenant, ouais. C'est pas mal.
À Camille, maintenant.
Et alors, un autre réalisateur qui va faire un gros projet, c'est Sean Levy, qui a fait beaucoup de films avec Ryan Reynolds, comme Free Guy ou The Adam Project. Et de quelques épisodes de Stranger Things, il va réaliser un film de Star Wars. Alors on ne sait pas quand ni de quoi il va parler, mais c'est sûr qu'il va en réaliser un. Et une autre actu concernant Star Wars, c'est qu'on a enfin des détails sur la série The Acolyte. Elle suivra les aventures d'une enquête criminelle menée par un maître Jedi et son ancien apprenti. Mais au fil des investigations, les deux protagonistes vont s'apercevoir que les crimes en question impliquent des forces plus sinistres qu'ils ne l'avaient prévu. Tout ça se passera une centaine d'années avant l'épisode. Le tournage a commencé... Ah, l'épisode 1, pardon. Le tournage a commencé et le casting a été dévoilé.
Et il y a notamment Carrie-Anne Moss qui joue Trinity dans Matrix, qui D'accord. est au casting. Bon,
cool.
Je sais pas sûr. On va avoir, on attend d'avoir plus d'infos.
Non,
voilà.
Ça veut dire qu'il y a encore du Star Wars, quoi. Encore.
Ouais. Ah non, mais avec Disney,
c'est,
on va
c'est
manger.
C'est plus que le MCU, quoi. C'est.
Ouf, pas quand même. Mais
ouais, non, quand même pas.
Il y a des gros projets MCU qui se préparent là.
Ouais, ouais, je sais.
Mais après
ouais.
là, mais je viens de regarder Andor là, ça m'a endormi justement. c'est vraiment. J'aurais jamais cru dire ça, mais là, en ce moment, j'ai un peu une overdose de Star Wars.
Moi, j'avais regardé saison 1 Mandalorian. Je voulais regarder la saison 2, mais.
Moi, j'ai même pas regardé.
Elle m'a pas
inspiré
du tout.
Moi, en tant que giga fan de Star Wars, ça me fait un peu mal de voir ça. Un film réalisé par Sean Levy, bon, je l'aime bien, Sean Levy, mais il réalise des comédies. Il réalise des comédies avec Ryan Reynolds, alors bon.
Ouais, clairement.
Voilà quoi.
Après, Kenobi, c'était vraiment pas mal.
Ah, non, j'ai pas du tout aimé.
Moi, j'ai adoré.
J'ai pas du tout.
Bon. Je sais pas. J'ai pas regardé, je peux rien dire.
Bon, après, c'est la grande mode là de développer un univers à chaque fois. Je crois qu'ils sont à court d'idées. C'est,
moi, je suis pas contre, mais d'un Star Wars, j'aimerais des projets qui osent un peu plus.
Oui.
The Acolyte, c'est pour ça qu'on en parle, parce que ça a l'air d'oser un peu plus. Mais voyez, la série sur Boba Fett, on s'en fiche au final.
Ouais.
Bon, la série sur Kenobi, bon, est-ce
franchement,
que...
voilà, moi, je me suis arrêté il y a longtemps. Franchement, je crois que. Non, c'est pas le... Star Wars, j'ai jamais été trop fan, mais là, je vais clairement pas regarder. Bon, c'est peut-être, voilà, c'est encore et toujours, hein, les goûts et les couleurs, mais pour le coup, je pense qu'en 2050, on y sera toujours. Ils vont encore nous sortir de nouveaux épisodes de n'importe quelle série Star Wars.
Et attends qu'ils se remettent au film, ça va être
ouais,
terrible.
Ça va être terrible, quoi.
Par contre, les films, il n'y a rien qui dépasse la première trilogie.
Ouais, non, c'est 4, 5, 6. Je suis d'accord.
Oui.
Ouh là là, on va pas se mettre dans ce débat, sinon le podcast va durer une heure.
Ah, les vrais premiers.
Pour
oui, voilà,
moi,
c'est
la prélogie la meilleure, mais voilà.
Ah ouais, ok.
Les deux.
Donnons l'actu à Carla avant que ça parte trop loin.
Donc, un peu plus tôt, on parlait de Spielberg. Donc, il serait en train d'écrire une nouvelle adaptation du film Bullitt de 1968 qui mettait en vedette le légendaire Steve McQueen. Mm-hmm. Pardon. Donc, Spielberg aurait largement entamé l'écriture du scénario et aurait déjà trouvé son acteur principal qui serait Bradley Cooper. Qui incarnera le rôle d'un lieutenant de police de San Francisco, comme dans le film original. Par contre, ce sera pas un remake, mais une nouvelle histoire originale.
D'accord, ok.
Bon, on va pas trop débattre dessus, mais moi, Spielberg, c'est mon réalisateur préféré.
D'accord.
En plus, il y a Tony Kushner, j'ai oublié son nom. Le scénariste de First Man de Damien Chazelle qui écrit avec Spielberg ce film, c'est sûr que ça va être un chef-d'œuvre. Spielberg, il est sur une lignée de chefs-d'œuvre là depuis 2017, il s'arrête pas. Ouais. Donc c'est sûr que ça va être bien.
Vous avez vu West Side Story?
Bien sûr, pour moi c'est le film de 2021.
Bon, mais merci. Enfin, je croise quelqu'un qui a aimé West Side Story parce que j'avais pas trop aimé moi l'ancien. pour le coup.
L'ancien, je trouve qu'il est très années 60, quoi.
C'est ça. Ouais,
Spielberg, il a fait une mise à jour magistrale avec tout son talent.
C'est excellent.
Les lumières sont magnifiques, les acteurs, tout. Regardez-le.
Ouais, c'est ça, ouais, non, clairement.
C'est un ordre. Moi, je peux vous parler du prochain film Pixar, dont on a eu la première bande-annonce, qui s'intitulera Elemental et qui sort en salle le 21 juin 2023. Le film racontera l'histoire de plusieurs petits personnages, incarnant tous des éléments de notre planète, le feu, la glace, la terre, etc. Et plus en particulier, l'histoire visiblement d'amour entre Flamme, décrite comme une femme intrépide et vive d'esprit au caractère bien trempé, et Flak, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur. Elemental sera réalisé par Peterson, habitué des Pixar ayant déjà réalisé Le Voyage d'Arlo en 2015. Voilà, voilà. Camille, parle-nous.
Alors, il y a aussi une... Ben, on parlait de Narnia, on m'a mentionné Narnia. Et alors, apparemment, Netflix, il vous préparait une nouvelle saga. Et il voudrait que ce soit Greta Gerwig, donc la réalisatrice de Lady Bird et Les Filles du Dr. March. Et l'année prochaine de Barbie, pour réaliser les deux premiers films. Mm-hmm. Alors, je sais pas vous, moi j'adore Narnia. Et j'adore Greta Gerwig aussi.
Je sais pas, vous en pensez quoi, vous ?
Moi, j'adore pas, mais j'aime bien Narnia, j'aime bien Greta Gerwig. Après, okay. J'attends de voir ce qu'elle fait sur Barbie, parce que Lady Bird et les quatre filles du Dr. March, je trouve que c'était bon film, sans plus. Donc, si Barbie est exceptionnelle...
Tu vas offenser quelqu'un en disant ça.
Non, mais je reste sur mes positions. Mais elle réalise bien, hein, mais bon, je trouve ce film, voilà, sans plus, quoi. C'est-à-dire, on passe un bon moment, mais voilà. Mais par contre... Très bon choix de Netflix, il prend une autrice pour Narnia au lieu de prendre un réalisateur ou réalisatrice quelconque. Prendre Greta Gerwig qui est une réalisatrice plus autrice, ouais. Qui écrit ses films.
Ouais.
Je trouve que c'est un bon choix.
Ouais. Moi j'ai bien aimé les filles du Dr. March. Après, j'ai pas non plus, c'est pas non plus le, pour moi, c'est pas mes films préférés, mais c'est vrai qu'il était, bien, puis c'était une adaptation de base, non ? C'est ça ?
Oui, c'est des livres qui ont été écrits. Ouais. À la fin du 19e, si je ne me trompe pas. Oui, au 19e. Par. Alors, c'est Louisa May Alcott.
D'accord.
Et, mais moi, en fait, j'étais allée le voir parce qu'il y avait Emma Watson dedans. Bon, ouais. J'avoue.
Et voilà. Pas Timothée Chalamet.
Ah non, en fait, moi, je suis pas. Alors,
il y avait
je vais offenser aussi. Les gens. Je vais offenser les gens, mais je ne suis pas plus fan que ça de Timothée Chalamet.
Bah,
il joue bien. Il joue bien, je pense. Mais. Voilà, je ne comprends pas.
D'accord, ok.
Mais moi, c'était Watson. Vraiment Emma Watson.
Ouais.
Et en plus, moi, c'est là que j'ai découvert Florence Pugh.
Ah oui,
qui est géniale aussi.
Ouais. Ouais. Moi, je l'avais découvert dans un autre film, c'était...
Midsommar aussi.
Midsommar. Oh là là.
J'ai jamais pu le filmer.
Faut que je le regarde, l'horreur.
C'est horrible. Mais si vous aimez pas les trucs d'horreur, n'allez pas regarder Midsommar... C'est horrible.
En fait, c'est-à-dire que c'est... En plus, c'est pas de l'horreur basique. C'est pas... Y a pas de pénombre, y a rien de tout ça. Mais c'est hyper psychologique. Et ils vont chercher...
D'ailleurs...
C'est un thriller psychologique.
D'ailleurs, le réalisateur de Midsommar, Ari Aster, du coup, il prépare son prochain film pour l'année prochaine avec Joaquin Phoenix, là.
D'accord.
Ça durerait 3h30. C'est le plus gros budget du studio A24 aux États-Unis. Mm-hmm. 60 millions de dollars. Peut-être à Cannes, on sait pas trop quand il sera présenté. Ce sera l'année prochaine. Faudra aller le voir au cinéma si vous aimez avoir peur. Si vous aimez pas, n'allez pas voir la filmographie d'Ari Aster.
J'adore les films d'horreur. Je sais pas si j'irai le regarder. Étant donné que le dernier que je suis allée voir, il m'a un peu traumatisée. Donc voilà.
C'était quoi ?
Smile.
Smile.
Ouais.
Ok. Bon après, je pense que c'est pas si je devais comparer Midsommar à un film d'horreur, pour moi c'est même pas un film d'horreur. Midsommar c'est vraiment du psychologique.
C'est psychologique.
C'est hyper psychologique.
Et puis la manière, je trouve que Florence Pugh, c'est pas mon film que j'ai aimé le plus d'elle, mais je trouve qu'elle était excellente dedans la manière.
Mais je crois qu'elle part un peu dans une, elle part en vrille parce que Don't Worry Darling aussi c'est assez.
Ouais. Je suis allée le voir au cinéma, c'est
assez particulier.
Elle a joué dans The Wonder qui est sorti le 16 novembre aussi sur Netflix là je crois. De Sébastien Lelio, un réalisateur chilien, je crois.
D'accord.
Ou espagnol.
Ok.
Elle joue une infirmière au XVIIe siècle en Irlande, au XVIIIe siècle. C'est pas mal, sans plus. Mais si vous voulez voir Florence Pugh, regardez ce film.
Ouais, non, elle est pas mal. De toute façon, elle est en pleine ascension.
Ouais, elle a une partie 2 l'année prochaine.
Ouais.
Avec le MCU, du coup.
Ah oui.
Elle joue Yelena, la sœur de Nadia.
C'est ça. Ouais. Ah bah oui aussi.
Elle s'est fait connaître grâce à ça, mais bon, moi je pense que le mieux c'est. Ah oui.
Elle avait joué dans The Falling avec Maisie Williams avant, en 2014, mais ouais, elle s'est fait connaître grâce à Black Widow.
Oui, et avant, elle s'était fait un peu connaître grâce à Midsommar. Je pense qu'elle avait quand même pas mal de succès.
Midsommar, ça avait eu pas mal de succès.
Les 4 filles du Dr. March aussi, je crois.
Aussi. Ronan aussi, qui joue dans les 4 filles du Dr. March. Ronan.
Oui.
Mais qui joue dans Lady Bird aussi, d'ailleurs.
Oui, mais avec Timothée Chalamet, Greta Gerwig, elle a fait les deux avec. Les deux films avec ces deux acteurs principaux.
Passons à la dernière actu. Ouais. Parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle.
Allons-y,
Le temps file. Millie Gibson, une actrice anglaise de 18 ans, rejoint le casting de la saison 14 de Doctor Who, qui entre en tournage en décembre et qui sera diffusée en 2024 sur Disney+. Elle jouera l'acolyte du 15e Docteur incarné par Shruti Gatwa, qu'on a vu dans Sex Education. Et son personnage sera nommé Ruby Sunday. Alors si vous connaissez pas Millie Gibson, c'est normal, c'est une jeune actrice anglaise de 18 ans qui a uniquement joué dans quelques séries du pays. Mais on connaît le talent de Russell T. Davies, le showrunner, celui qui charge de l'écriture de la série, du coup, pour le casting. Ce qui me mène à une autre réflexion, c'est pourquoi il faut absolument que vous regardiez Doctor Who tout de suite, là. Alors, c'est une série de science-fiction qui existe depuis 1963 en Angleterre, mais vous inquiétez pas, il faut pas tout regarder. La série a eu 26 saisons entre 1963 et 1989, et celles-ci sont en fait un bonus aux 13 saisons produites depuis 2005, car en effet, le fameux Russell T. Davies, qu'on évoquait il y a quelques secondes, là, a relancé Doctor Who cette année-là avant de quitter la série en 2010. Et si vous connaissez quelques éléments de la série, c'est sûrement Russell T. Davies qui les a écrits, en fait. La série, c'est un alien sous forme humaine, le Docteur, qui voyage à travers l'univers pour résoudre des soucis sur Terre et d'autres planètes dans le passé, le présent et le futur.
D'accord.
Mais bref, ce qui fait que Doctor Who est unique, c'est la capacité du personnage principal, le Docteur, donc, à se régénérer, c'est-à-dire changer de corps sans oublier son passé, mais en changeant une bonne partie de son caractère. Du coup, il peut y avoir un Docteur colérique, un Docteur plus gentil, voilà, tout ça.
Une femme.
Exactement. Mm. Enfin, c'est pas un caractère, du coup. C'est plus...
Oui.
Voilà. Aujourd'hui, en 2022, on en est à sa 14e incarnation, jouée par David Tennant, qui sera à la tête d'affiche de 3 épisodes spéciaux d'une heure en novembre 2023 pour commémorer les 60 ans de la série. Ça fait 60 ans.
Hein. Déjà.
Ouais, 60 ans.
Et cerise sur le gâteau, Russell T. Davies revient écrire la série à partir de ce moment-là. Et fin 2023, David Tennant va se régénérer en Shruti Gatwa pour la 15e incarnation du Docteur, qui sera donc accompagné du personnage incarné par Millie Gibson.
C'est quand qu'elle finit cette série, franchement?
Docteur Who?
Jamais, parce que c'est une institution du Royaume-Uni déjà. Et surtout.
Après, il y a eu de super bons acteurs.
Même la reine Elisabeth avait commandé l'intégrale des DVD de Doctor Who. Hein.
Sérieux?
Bah, moi, désolé, j'ai jamais vu.
Et justement, c'est pour ça qu'on vous fait...
Allez, regardez.
Exactement, il faut regarder Doctor Who.
Franchement...
C'est une superbe série.
J'ai pas regardé la série.
J'ai jamais regardé
non plus.
Je sais que ça peut rebuter 13 saisons, mais vraiment, moi aussi, ça me rebutait. Un jour, je me suis mis et j'ai pas regretté. C'est un voyage, vraiment. Je pense que c'est une des meilleures séries. Et en plus, ça fait... pas trop cheap en plus, donc c'est bien. Mm-hmm.
Si, la première saison.
Oui, forcément, mais bon, ça date d'il y a quasi 20 ans, voilà, ça commence à faire là.
Ah, ben, moi,
il y a Matt Smith d'ailleurs, qu'on a vu dans House of the Dragon, qui a joué le 11e Docteur.
D'accord.
Oui.
Okay.
Il va y avoir aussi Yasmin Finney, qui a aussi joué, qui fait connaître grâce à Heartstopper.
Oui.
Pour faire. Alors, c'est Ella en français, Elle en anglais.
Mm-hmm.
Oui. C'est vrai.
Et
qui sera dans les spéciaux de novembre 2023 pour commémorer les 60 ans de la série. Ouais.
Ouais.
Tout à fait.
Ça va être une future grande actrice, je pense. Hein.
Ah ouais,
Je suis comme toi, honnêtement, je regarde beaucoup de films et peu de séries.
Moi aussi, pareil.
Moi, c'est le contraire.
Ouais. Mais justement, Doctor Who, ça m'a pris du début à la fin. Quoi. Enfin, je n'ai même pas terminé, du coup.
Je me suis arrêté à la réincarnation de Capaldi à Whittaker.
Donc, du 12e au 13e Docteur, il y a 5 ans maintenant.
Ouais,
y a peut-être quelques saisons qui sont un peu moins bonnes au milieu, mais honnêtement, aucune n'est vraiment nulle. Vous pouvez regarder 13 saisons d'affilée, voilà, en une semaine, c'est plié.
Faut avoir le temps.
Matin, midi et soir.
Et si vous adorez cette série, vous aurez donc les 26 vieilles saisons qui sont composées de 600 épisodes, je crois, épisodes.
Ouais. Parfois, les premiers sont en noir et blanc.
En noir et blanc. Et surtout, l'audio sature, bien évidemment. Mais surtout, c'est des épisodes en diaporama parce que la BBC, qui produit cette série, donc au Royaume-Uni, en fait, a jeté les bobines qui avait les épisodes des années 60.
D'accord.
Du coup, il reste que des diaporamas d'images de l'épisode. Mais vous inquiétez pas. C'est que les 2-3 premières saisons. Ensuite, les 20 autres, vous pouvez les regarder comme ça. Ça va.
Tu rassures les gens en disant les 20 autres. Tu
les
sais.
20 autres saisons.
Oui, mais c'est des bonus. C'est des bonus. C'est les importantes. C'est les 13 saisons depuis 2005. Et elles sont disponibles pour les 10 premières sur Prime Video. Allez tout de suite les voir.
D'accord. Ok. C'est cool.
Et bien voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se dit rendez-vous en janvier pour le prochain épisode et les sorties les plus attendues de cette début d'année, du coup.
Oui.
Vous pouvez réécouter ce podcast sur SoundCloud et sur le site internet de Radio Campus Pau.
On aimerait aussi beaucoup remercier Lucas d'être venu, parce que déjà, c'est le parrain de cette
merci.
Émission.
Ouais.
En plus,
le plaisir est partagé, franchement. C'est super. J'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment cool, franchement.
Merci beaucoup.
D'ailleurs, petit bémol, parce que j'ai fait mes petites recherches, j'ai pas fait honneur à American History X, puisque je me suis trompé de réalisateur. C'est pas Tony Scott, parce que bon, Tony Scott, c'est le fameux frère de Ridley Scott, si vous connaissez Ridley
oui.
Scott, justement, celui qui a fait les aliens.
Oui.
Et donc, c'est Tony Kay, pas Tony Scott.
Kay. Voilà. D'accord.
Donc, je répare ma faute, franchement. Et en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Et puis à l'avenir, peut-être qu'on pourra retravailler ensemble. Hein.
Peut-être qu'un jour on te réinvitera.
Mais clairement, ça serait avec plaisir.
Pour la fin de la saison, on l'a
beaucoup
dit.
Bien sûr,
ça serait super, vraiment.
Restez à l'écoute de Radio Campus Pau sur les réseaux sociaux pour être informé de la sortie des podcasts et de la programmation de la radio. À dans un mois.